Ce matin, ceux qui étaient ici au pas du Seigneur, quand on prêche et qu'on nous donne un thème sur lequel prêcher, et qu'en plus on arrive un dimanche comme aujourd'hui, puis c'est un thème libre, je me suis dit, ça va virer sur la résurrection. Et bien entendu, c'est ce qui est arrivé. Puis là, j'entendais les partages, les chants, puis j'ai dit, mais là, c'est ma prédication. Donc ceux qui étaient ici ce matin, là, au pas du Seigneur, restez quand même. Parce que des fois, c'est bon de se faire répéter des choses aussi afin de nous permettre de mieux les assimiler et surtout de mieux y réfléchir. Et on m'a demandé d'apporter une prédication sur la résurrection et j'ai pensé le faire sur la notion de la résurrection, un mythe ou une réalité. Parce que ça a été dit tout à l'heure, un peu partout dans le monde, les gens parlent de Pâques, les gens parlent de la résurrection et ainsi de suite. On en entend beaucoup parler. Mais lorsqu'on prend un micro et qu'on pose des questions à des gens, c'est bizarre, c'est comme si le volet de la résurrection prend une tournure. Et ça, c'est tellement vrai que cette semaine, j'ai reçu en début de semaine un PowerPoint de quelqu'un dans ma famille qui était intéressant, puis les gens disaient que c'était donc beau. Puis c'est un PowerPoint qui faisait état d'un endroit au Texas qui s'appelle Groome, une petite municipalité près de l'autoroute 40, mais au Texas, où là, il y a plus de 10 millions de personnes qui passent là par année pour aller voir. Et aller voir quoi? Une croix qu'on peut voir à plus de 20 000 de distance. Mais quand les gens vont là, ce qu'ils réalisent, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait des sculptures en bronze qui sont terriblement belles. Et ces sculptures-là, qui sont en bronze, font le tour un peu de ce qui est la passion. Et accompagnant le PowerPoint, il y avait aussi des belles phrases qui apparaissaient. Puis c'était intéressant parce qu'on montrait à quel point Jésus avait fait de grandes choses et Jésus était un homme avec de grandes valeurs, je dirais. Mais ce qui m'a surpris, c'est que quand on arrivait à la dernière station, on voyait là, à ce moment-là, le corps de Jésus qui est enlevé de la croix et qui est emporté vers, normalement, le sépulcre, on le sait. Mais c'est la dernière station. 10 millions de personnes qui vont là, qui sont impressionnées par l'œuvre d'art que ça peut représenter, mais qui arrêtent comme si c'était à la mort de Jésus. Mais la question qu'il faut se poser, oui, mais après la mort. Et la semaine dernière, en fin de semaine dernière, j'ai été à la Villa du Carmel, un colloque, puis je feuilletais un livre et j'ai trouvé intéressant qu'il y avait des statistiques qui étaient données, qui est faites par une équipe de sondage aux États-Unis qui s'appelle le Barna Group, excusez mon anglais, mais qui a fait un questionnaire comme ça, puis a posé des questions aux Américains. Et ça disait que 80% des Américains croient une forme de vie après la mort, une forme de vie. Ça peut être bien des choses. Ça peut être un esprit qui se promène. Ça peut être bien des choses. 79% pensent que chaque personne possède une âme qui vivra soit en présence de Dieu ou soit éloignée de lui. Ah, tout à coup, regardez donc, là, savez-vous que ça commence à être plus sérieux, l'affaire? Et je suis allé cette semaine sur Internet voir cette équipe-là de sondage qui ont fait un sondage en 2010. Et là, qui dit ceci, c'est que 60% des Américains considèrent Pâques comme une fête religieuse. On s'entend là-dessus? 67. Et 42% identifient la résurrection de Jésus comme étant une partie de cette fête-là. Juste 42%. Et étant une partie de la fête. J'ai trouvé que c'est un peu troublant, des statistiques comme ça. Et c'est pour ça que c'est important d'aller plus loin dans notre réflexion, justement, sur la résurrection. La semaine dernière, Adama avait le mandat de nous parler des souffrances de Christ, de la passion du Christ, qui l'a amené tout au long de sa vie jusqu'à la croix. Et Adama nous a souligné la semaine dernière que, effectivement, toutes ces souffrances-là que le Christ souffrait à la croix, c'était dans le plan de Dieu. Ça démontrait à la fois le cœur de l'être humain, comment il était méchant, mais en même temps, le plus important, c'est qu'au-delà des souffrances physiques, il y avait toutes les souffrances morales que le Seigneur Jésus subissait par amour pour nous. Et Adama nous a sensibilisés au fait que dans ce plan-là de Dieu, il était nécessaire que Jésus aille à la croix à la fois pour satisfaire l'amour de Dieu envers sa créature, mais aussi sa justice en jugeant le péché. Mais on n'arrête pas là. Oui, Jésus a été descendu de la croix. Et dans le fond, l'histoire se continue. Et quand on prend le temps de regarder dans la parole de Dieu les suites à ça, on voit qu'effectivement, il y a eu des, dans le Matthieu chapitre 27, pour ceux qui veulent regarder, puis je vais avoir aussi des versets à l'écran, dans Matthieu 27 et Matthieu 28, on voit que après la crucifixion, ça a eu un impact vraiment majeur sur des personnes. Si on pense aux disciples, comment ils ont réagi, 3 ans avec Jésus, le voir faire des choses incroyables, et il arrive à la crucifixion et tous les disciples sont partis. Les disciples sont partis puis ils s'en vont effrayés, apeurés par ce qui peut leur arriver, confus totalement, désorientés et même, je dirais, découragés. Parce que ce Jésus qu'ils avaient suivi, qui espéraient voir en lui un libérateur qui viendrait puis qui ferait le ménage, ça s'est pas passé, il est décédé. Donc, des disciples qui étaient remplis d'espoir, mais qui ont été déçus. Et d'un autre côté, des gens religieux, puis des gens du peuple, des gens qui étaient heureux parce qu'enfin, il était mort, ce Jésus-là. Hein? On lui a même dit, « Descends de là, c'était vraiment le Fils de Dieu. » Il ne l'est pas, hein? On en a la preuve, « T'es mort. » Donc, des gens qui étaient heureux de ça aussi. Et l'histoire se continue parce que on arrive à l'aspect de son ensevelissement. Où là, un homme comme Joseph, qui venait d'Arimathée, la Bible nous dit, ainsi que Nicodème aussi, que Jésus avait déjà rencontré, ces personnes-là vont se rendre au sépulcre. Et ils vont se rendre au sépulcre pour offrir, d'une certaine manière, ou pour, non pas embaumer, mais pour vraiment, je dirais, envelopper Jésus de bandes avec un linceul, en ayant plus de 32 kilos de parfum, selon la tradition juive qui était de le faire comme ça. Ils vont tout faire ça pour le Seigneur Jésus. Mais voilà que, en plus de son ensevelissement, il y a aussi une surveillance qui est accrue. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que les chefs religieux, eux, se souvenaient d'une parole que Jésus avait dit. Jésus lui avait dit qu'il était pour ressusciter 3 jours après. C'est bizarre. Les disciples n'en font pas de cas. Mais les chefs religieux, eux, s'en souviennent, puis vont voir Pilate, puis « Hey, cet imposteur-là qui est mort, là, faudrait surtout pas qu'on commence à faire à croire qu'il est ressuscité, il nous l'a dit. » Donc, on peut-tu s'organiser pour s'assurer qu'il n'est pas volé? Et Pilate leur permet d'avoir une garde romaine qui était composée de 4 à 12 hommes pour aller au sépulcre, s'assurer que la pierre est fermée, et ce n'était pas une petite pierre, les historiens nous disent que c'était des pierres qui avaient entre 4 et 6 pieds de diamètre, qui pouvaient peser jusqu'à 1 tonne. Et là, la garde romaine va en plus sceller cette pierre-là. Et malheur à qui touche à ça par la suite. Parce que lorsque c'était sous l'autorité des Romains, quelqu'un qui aurait rentré dans le tombeau ou quelqu'un qui aurait posé des actes était passible d'une peine de mort. Donc, une surveillance vraiment accrue pour s'assurer que personne puisse entrer dans le tombeau. Puis arrive le dimanche matin, on arrive dans le chapitre 28 de Matthieu, où là, des femmes... Et c'est drôle parce qu'on en a parlé tout à l'heure plus tôt aussi. Des femmes qui sont à la fois craintives et qui, dans un geste d'hommage, veulent aller aussi oindre Jésus, s'en vont là vers le sépulcre, toutes craintives, en se demandant, mais la pierre qui est là, qui va s'organiser pour nous la tasser? C'est tellement pesant, à elles seules, elles ne seront pas capables. Mais ils se posent cette question-là. Et finalement, ils arrivent vis-à-vis le sépulcre. Et qu'est-ce qui arrive? La pierre a été tassée. Les soldats, on ne sait pas exactement, on sait qu'ils ont eu tellement peur qu'ils sont tombés comme morts à terre. Ils étaient-ils là lorsque les femmes sont arrivées? On ne sait pas. Mais les femmes ont eu quand même, à ce moment-là, quelqu'un qui leur a donné une parole qui est très importante. Et cette parole, elle dit ceci. Elle dit, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. » Wow! Comment cette femme-là a dû à la fois avoir une crainte incroyable, mais en même temps, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont quitté de là, toutes joyeuses pour aller annoncer aux disciples que Jésus était ressuscité. C'est ce qui venait de leur être dit, et c'est le même Jésus qui avait été crucifié. Allez le dire aux disciples, vous allez le voir éventuellement en Galilée. Les femmes se sont ramassées devant quoi? Comme constat, un tombeau qui était vide. Un tombeau vide. Et ça, c'est un fait, je dirais, qui est historique à quelque part. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, pour nous, c'est facile. On a la parole de Dieu, on a tout lu, on a lu de la Genèse à l'Apocalypse, c'est facile. Mais à cette époque-là, c'était pas évident. Mais en même temps, il faut se souvenir que le tombeau vide, ça prend toute une signification qui est très, très importante. Et c'est pour ça qu'au fil des siècles, il y a eu une multitude de théories pour essayer de défaire ou d'expliquer le tombeau qui était vide. Selon les exégètes, quand on consulte que ce soit William MacDonald, MacArthur et compagnie, il y en a peut-être 7 théories majeures qui ont été soulevées par les opposants à la résurrection, ceux qui veulent le nier. Et ces théories-là, il y en a eu des loufoques, mais regardons quand même en gros les principales. La première théorie, la théorie du coma. Jésus, il n'est pas vraiment mort. Il est allé dans le sépulcre, mais à un moment donné, il s'est réveillé de son coma. Il était magané, mais il s'est réveillé, puis il est sorti. Il a roulé la pierre, il a rangé tout ça. Théorie du coma. La théorie niant la sépulture. Jésus n'a jamais vraiment été mis dans la sépulture, dans le tombeau. Il a été envoyé comme d'autres qui ont été crucifiés dans une fosse commune. C'est comme ça qu'on essaie d'expliquer le fait que le tombeau est vide. Une troisième, la théorie de l'hallucination. Les disciples croyaient tellement que Jésus était pour ressusciter qu'ils ont halluciné. Et on va voir que les disciples n'étaient pas comme ça du tout. Ensuite, un ne peut plus flyer. La théorie de la télépathie. Les disciples étaient découragés et Dieu leur a insufflé par télépathie dans le cerveau que Jésus était ressuscité, que Jésus était vivant. Tirez-en vos conclusions. La théorie du spiritisme. Là, il y avait quelqu'un, genre un Messner, qui était assez capable, qui était capable de toutes les hypnotiser, là, tout ce monde-là, pour qu'ils pensent qu'ils ont vu Jésus. Et la théorie de l'erreur sur la personne, Jésus avait un sosie. Et c'est le sosie qui a pris la relève. Ça nous fait rire, mais il y a des gens qui ont écrit des livres là-dessus pour essayer de nier la réalité que le tombeau était vide. Mais la parole de Dieu est là, puis elle nous en donne une théorie qui est bien simple, c'est la théorie du vol. On a pris la peine de soudoyer les soldats, parce que quand les soldats ont vu ce qui est arrivé, puis qu'ils ont eu si peur, sont partis voir les chefs religieux, puis ils leur ont conté qu'est-ce qui est arrivé, ils savent pas. Et là, les chefs religieux les ont soudoyés en leur donnant une forte somme d'argent, puis en leur disant, bien, si on vous interroge là-dessus, là, dites que ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Dites ça. Puis nous autres, on va s'occuper du reste. Donc, faites juste ça, tout simplement. Toute une théorie. Imaginez. Des soldats endormis. Les soldats romains étaient dans des experts dans la guerre. Et quand il y avait des veilles de nuit à respecter, ils les respectaient. Ah, il pouvait y en avoir qui dormaient, mais il y en a d'autres qui étaient éveillés. Parce que s'ils ne restaient pas éveillés puis qu'il arrivait quelque chose, ils risquaient de payer ça très, très chèrement. Et si les disciples étaient endormis, non pas les disciples, les soldats étaient endormis, comment ils ont fait pour savoir que c'est les disciples? Ils sont venus chercher Jésus, ça ne tient pas. Voyez-vous comment c'est ridicule à quelque part, mais ça prenait une théorie. Puis les chefs religieux l'ont trouvé. Ensuite de ça, une pierre qui roule. Imaginez les pierres que ça représentait de rouler ça pendant que 4 à 16 personnes dorment. On va le faire discrètement et délicatement. Ça ne tient pas. C'est énorme, cette pierre-là. Les disciples étaient endormis pendant ce temps-là. Une pierre qui roule, ça n'a pas de sens. Puis un vol avec minutie, j'ai appelé. Parce que ceux qui sont venus voler le corps, ils ont pris la peine d'enlever les bandes, de mettre toutes les bandes de Jésus à terre, de prendre le linceul, de prendre ce qui le recouvrait, puis de plier ça à côté. Wow! Ils n'étaient pas pressés, les voleurs? Non, ça ne marche pas l'affaire encore une fois. Puis qu'est-ce qui aurait empêché les chefs religieux pour prouver qu'ils avaient raison d'organiser tout simplement une recherche? Il était magané, Jésus, là. Donc, s'ils l'ont, il est mort, puis ils l'ont, sont partis avec, organisons des recherches, pognons-le, puis prouvons à tout le monde qu'il n'est pas ressuscité, mais qu'il est mort encore. Mais les chefs religieux n'ont même pas fait ça. Et quand on parle des disciples, ce serait les disciples qui l'ont volé. Vous savez ce qui est arrivé? Les disciples, ils avaient peur. Les disciples étaient cachés. Et même lorsque les femmes sont allées pour rencontrer les disciples et qu'ils leur ont dit que Jésus était ressuscité, qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ne les ont pas crus. Luc 24, 11 dit qu'ils prirent ces discours pour des rêveries. Les disciples eux-mêmes n'y croyaient pas. Ils étaient surpris de ce qu'ils entendaient. Ah oui, ils se sont déplacés pour se rendre au sépulcre, par exemple. Mais voyez-vous, la seule conclusion qui s'impose, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Et je vous dirais que toute théorie qui tend à vouloir nier ça, tout ce que ça fait, c'est en train de le prouver. Parce que ces théories-là n'ont pas de sens. Puis, on doit s'interroger même sur une autre chose, c'est quelle est la motivation de tous ceux qui cherchent à nier la résurrection de Jésus-Christ? Pourquoi? Laissons les chrétiens croire à ce qu'ils veulent. Pourquoi qu'on s'attarderait à nier la résurrection? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas, à quelque part, avoir de compte à rendre à Dieu. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, on n'a pas de compte à rendre à Dieu. Donc, la meilleure façon, c'est d'essayer de nier cette résurrection-là. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que, suite à ça, le tombeau était vide, mais que Dieu nous donne des preuves de la résurrection de Jésus. C'est ainsi que pendant plus de 40 jours, Jésus est apparu à au moins 10 ou 12 reprises à des personnes. Et il était paru même à un moment donné à au-dessus de 500 personnes à la fois. Pensez à ça, là, des témoins oculaires qui l'ont vu vraiment, comme on dit, de leurs yeux. Plus de 500 personnes à la fois. Dieu a voulu attester qu'effectivement Jésus était ressuscité. Et quand il est ressuscité, quand il est apparu aux gens, il est apparu même, la parole nous montre, corporellement. Pas un esprit qui se promène, là. Non, non, il est apparu corporellement. Il a dit, voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme j'ai. Et il a pris de la peine de manger même avec ses disciples. Des témoins oculaires de la résurrection. Quelqu'un a dit que la résurrection peut être niée, mais pas démentie. Impossible. Les faits sont là, les preuves sont là aussi. Mais qu'est-ce que ça a eu comme impact maintenant, la résurrection? Bien, la première impact, elle a eu lieu sur les disciples. Des disciples qui ont été vraiment transformés. Ces gens-là qui avaient si peur quand Jésus est mort, qui étaient cachés, lorsqu'ils sont devenus des témoins de la résurrection, ils ont eu une assurance incroyable. Ils ont été capables de faire face à toute l'opposition, toute la haine, toutes les persécutions, au point de mourir même en martyr. Des vies qui ont été transformées à cause de la résurrection de Jésus. Et non seulement ça, ces disciples-là ont eu une prédication maintenant qui était convaincue, et dans certains cas, convaincante. La prédication de la résurrection de Jésus a été au centre de le message que tous ces disciples-là, ces apôtres-là, ont eu tout au long de leur vie. Et c'était tellement pour eux, important pour eux, qu'il n'y avait rien qui pouvait les empêcher de parler de cette résurrection-là. Ils sont devenus tout à coup des porteurs de bonnes nouvelles, des Billy Graham de ce temps-là, des François Fréchette, appelez-les comme vous voulez. Qu'après ce qu'ils ont vécu, ce dont ils ont été témoins, ils ont été transformés et ils sont allés annoncer vraiment la bonne nouvelle. Mais l'impact de la résurrection, elle était là dans des vies transformées puis une prédication vraiment convaincue. Mais la résurrection, elle avait comme but aussi de nous montrer dans sa parole qu'elle était nécessaire. La résurrection de Jésus était nécessaire parce que Jésus lui-même, ça a été souligné ce matin au repas du Seigneur, Jésus lui-même a au moins trois reprises, ne serait-ce que dans l'évangile de Matthieu, il nous est rapporté que c'était une nécessité que Jésus se rende à la croix, mais aussi qu'il ressuscite. C'était un impératif. Il fallait absolument que Jésus ressuscite parce que c'était directement avec le plan de Dieu. Et c'est un verset tellement qui montre l'importance que Jésus accordait à ça en disant « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, c'est Jésus qui dit ça, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que tout ce qui était écrit. Autrement dit, quand on prenait la peine de regarder dans l'Ancien Testament, tout ce qui était écrit sur le Messie qui devait venir, bien, devait s'accomplir. Adama, la semaine dernière, nous a parlé que par la suite, tout ce qui a été dit sur Jésus, jusqu'à l'Apocalypse, ça devait tout s'accomplir. Donc, la résurrection, elle était quelque chose qui était nécessaire. Absolument, parce que les écrits auraient pu eu de sens. Il fallait que vraiment tout ça s'accomplisse. Donc, oui, l'importance de la résurrection, c'est aussi de se rappeler que c'est une doctrine dans la parole de Dieu qui est fondamentale. C'est triste, lorsque je regardais tout à l'heure les statistiques que je vous ai données au début, de voir que la résurrection a plus ou moins sa place dans la fête religieuse qui est Pâques. Et on pourrait dire plus ou moins sa place n'importe où, la résurrection de Jésus. Mais pourtant, dans la parole de Dieu, c'est une doctrine qui est fondamentale. Parce que lorsqu'on veut mettre en doute cette doctrine-là, ça a des conséquences qui sont désastreuses. Et c'est pour ça qu'à quelque part, même dans les Épîtres, Paul a vu la nécessité d'expliquer aux Corinthiens les conséquences du fait que quelqu'un qui nie la résurrection, qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence? Et quelques-unes de ces conséquences-là, c'est que ça vient dire que tous ceux qui ont été des témoins oculaires de Jésus ressuscité, ce sont tous des menteurs. Et pensez à ça. La quantité de personnes qui sont mortes ou qui seraient mortes à cause d'un mensonge, ça ne tient pas. Mais la doctrine de la résurrection est tellement importante qu'elle doit être prêchée. Mais si elle n'est pas vraie, ça veut dire que ce sont tous de faux témoins. En plus, Paul va dire que notre prédication est vaine. Toute cette prédication qu'ils ont faite pour expliquer que Jésus devait mourir pour nos péchés et ressusciter, selon les Écritures, bien, c'est vain. Ça ne donne rien, cette prédication-là. Arrêtez de prêcher ça. Ça n'a pas de sens. ça s'aggrave encore. Votre foi est vaine. Vous qui avez placé votre confiance en Jésus, mais en un Jésus ressuscité, s'il n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, elle vaut rien votre foi. Vous croyez juste en un Jésus qui avait des valeurs, qui a donné un bel exemple, puis c'est tout. Bien, votre foi, elle est vaine parce qu'elle ne sert pas à réaliser le plan de Dieu en bout de ligne. Puis elle est vaine parce qu'un sauveur qui est mort ne peut pas donner la vie. C'est aussi simple que ça. Et le drame ultime, si Jésus n'est pas ressuscité, Paul va dire, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que la mort n'a pas été vaincue. Et le salaire du péché, la Bible nous dit que c'est la mort. Donc, pas de réconciliation, je dirais, possible avec Dieu. Et une personne qui croit en un Jésus uniquement qui n'est pas ressuscité, bien, elle croit à un Jésus qui n'a aucune puissance. Un Christ qui est mort, tout simplement. Un bon gars. Et malheureusement, ça n'a pas passé, puis il est mort. Puis un Jésus qui est mort, bien, il ne peut pas aider personne. Tandis qu'un Christ qui est vivant, lui, il est là pour pouvoir vous aider. Lui, il est là pour pouvoir vous encourager. Lui, il est là pour nous guider. Mais surtout, il est là pour nous sauver. Lui est capable de compatir aux épreuves qu'on vit parce que lui, il est vivant. Et c'est pour ça que la doctrine de la résurrection, c'est au centre, je dirais, de la foi chrétienne. C'est un peu la pierre angulaire de la foi chrétienne. Puis, non seulement c'est une doctrine fondamentale, mais c'est aussi une doctrine qui amène un espoir de salut, la résurrection. C'est le seul espoir de salut pour l'homme, un Jésus qui est ressuscité. Si Jésus n'est pas ressuscité, prédication vaine, foi vaine et aucun espoir. Oui, la résurrection, c'est vraiment une doctrine qui est centrale. Et quand on comprend ça, quand on accepte le fait que oui, dans l'Ancien Testament, on parlait de la résurrection, dans le Nouveau Testament, Jésus en a parlé, et ainsi de suite. Quand on comprend ça, on comprend aussi que la résurrection, elle est porteuse de victoire. Ça a été chanté ce matin. Christ est victorieux. Christ a vaincu la mort. Et ça, c'est toute une victoire, parce que l'Épître aux Romains nous dit que Jésus, c'est celui qui a été livré pour nos offenses, mais qui est ressuscité pour notre justification. Il a été livré. Lorsqu'on voyait la semaine dernière Jésus sur la croix, rappelons-nous qu'il était là, mais qu'il était livré pour nos offenses. Mais il est ressuscité pour notre justification. La justification, c'est ce qui nous permet que Dieu nous déclare juste devant lui, mais pas à cause de ce qu'on a fait, puis des bonnes œuvres qu'on a fait ou de la religion qu'on a suivie. Il nous déclare juste parce que tout simplement, on a accepté le fait que Jésus était mort personnellement pour nous, qu'il avait porté nos péchés sur la croix, et que Dieu a été satisfait de l'œuvre accomplie à la croix par son Fils, portant nos péchés, et il en a donné la preuve en quoi? En le ressuscitant. Quelqu'un a dit, j'ai lu ça dans notre pain quotidien à un moment donné, le tombeau vide est le « Amen » de Dieu au « Tout est accompli » de Jésus. Pensez à ça comme il faut. Lorsque Jésus était sur la croix, puis que pendant les 3 heures qu'il a expié, la Bible nous dit nos péchés, vos péchés, mes péchés, dans les souffrances incroyables qu'il avait, qui étaient au-delà des souffrances physiques, ce qui était pire encore, c'est la séparation d'avec Dieu. Bien, quand Dieu a vu tout ça, que le Seigneur Jésus a accepté tout ça, il était pleinement satisfait. Il a pu témoigner, démontrer à la fois son amour et sa justice à la croix. Et pour le démontrer, ben, il a ressuscité le Seigneur Jésus. C'est vraiment le Amen de Dieu au « Tout est accompli » de Christ. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, dans ma vie? Qu'est-ce que ça fait dans votre vie de savoir que Christ est ressuscité? Ben, ça devrait avoir quelques applications. La première, c'est pour le croyant. Vous êtes ici ce matin et pour vous, c'est clair que Jésus est mort pour vos péchés, que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant et que maintenant, vous avez une relation vraiment intime avec lui et qu'il est vivant, ben ça devrait dire à ce moment-là quoi? Qu'on a une vie conséquente. Parce que le monde qui nous entoure, lui, il n'est pas comme ça. Le monde qui nous entoure vit comme s'il n'avait qu'une seule vie à vivre, puis qu'après ça, c'était le trou. Alors que pour vous et pour moi, qui connaissez le Seigneur Jésus, qui dites que vous le connaissez, on devrait avoir une vie en conséquence, parce que l'Épître aux Corinthiens nous dit que Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le chrétien est une personne qui a une espérance, et je dirais même une assurance, c'est que ça ne se termine pas ici-bas sur la terre. Ça ne s'arrête pas à la croix. Ça se continue pour l'éternité, parce que je sais que Jésus m'a aimé au point de donner sa vie pour moi, et qu'un jour, il va venir me chercher. Et que la mort n'est pas la fin pour moi. J'espère que ce matin, ici, vous qui êtes ici, vous pouvez dire la même chose, que vous avez cette espérance-là en vous aussi. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui doutait. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous êtes fait votre propre théorie sur la résurrection. Vous êtes peut-être quelqu'un qui vous êtes convaincu que c'est pas vrai, ça. Que Jésus, bon, c'est pas vraiment si important que ça qu'il soit pas ressuscité. Vous êtes quelqu'un qui vous dites, j'aime le Christ, mais juste pour ce qu'il a démontré dans sa vie, son amour, sa compassion et tout ça, et je veux refléter ça dans ma vie. Ben, vous êtes encore quelqu'un qui doutait. Et si vous doutez, ça veut dire que vous n'êtes pas encore un chrétien. Parce que le chrétien croit à la résurrection. Et pour celui qui doute, ça vous amène donc à prendre une décision qui est cruciale. Parce que la résurrection nous démontre en même temps l'incrédulité humaine qu'il y a sur la terre. Les gens qui n'en veulent pas du tout. C'est la majorité. Ça montre l'incrédulité. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, lorsque, à un moment donné, il était en discourant avec des chefs religieux, des Sadducéens, qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Eh bien, ce matin, je me permets de vous dire que si vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus, vous êtes dans l'erreur. Je ne vous dis pas que c'est facile à comprendre. Je ne vous dis pas ça. Mais il dit que c'est parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Les Écritures qui étaient là bien avant que Jésus apparaisse ici-bas sur la terre, qui naisse et qui se rende jusqu'à la croix, qui annonçait sa venue, sa vie, sa mort, sa résurrection. Ben, si vous êtes, ne croyez pas à la résurrection, vous êtes dans l'erreur à cause des Écritures, mais vous l'êtes en plus à cause que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. L'esprit humain a des limites. Notre petit poids qu'on a entre les deux épaules a des limites. On aura beau être le gars ou la fille la plus intelligente, vous êtes limité. Mais un Dieu qui a créé l'univers est pas mal plus fort que ce que vous êtes capable de comprendre. Et s'il a créé l'univers, pensez pas qu'il n'est pas capable de ressusciter quelqu'un. Comprenez? Et c'est pour ça que l'importance des Écritures et de la puissance de Dieu, c'est au fait même de ce qui est la résurrection. Malheureusement, de nos jours, pour ce que j'appelle l'humanisme, la réalité humaine, c'est juste ce que je comprends avec mon esprit, je l'accepte et je le crois. Le reste, je ne le crois pas. Ben, c'est ça dans le monde. Mais quand on connaît et qu'on a une relation avec le Dieu vivant, avec son Fils ressuscité, on sait qu'il est capable d'aller au-delà de ce qu'on peut comprendre, puis il peut nous émerveiller par des choses que des gens ne seraient même pas capables d'expliquer non plus, soyez-en certains. Et c'est pour ça que la décision cruciale qui doit être prise, c'est parce que nous, on a en même temps, les chrétiens ont une commission, une grande mission, comme à l'époque de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et la décision, elle est en lien directement avec ça. Jésus est ressuscité, mais ça ne s'arrête pas là. Le message, la bonne nouvelle qu'on doit apporter aux gens, c'est que non seulement il est ressuscité, mais que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés. Ça, c'est l'Évangile. Sinon, c'est un Évangile qui est bonbon. La repentance et le pardon des péchés, parce que cette repentance-là et le pardon des péchés, maintenant, il est possible à cause de ce que Jésus a fait. Et la décision que vous devez prendre, Paul dit aux Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voulez être réconcilié avec Dieu, vous devez croire à ce que Jésus accomplit, mais de ce que Jésus est ressuscité. Et ça, ce n'est pas avec le cerveau que ça se fait. Ah oui, le cerveau aide à comprendre, mais c'est qu'à quelque part, c'est un cœur qui doit agir. C'est un cœur qui doit s'ouvrir face à l'appel de Dieu. C'est un cœur qui doit s'ouvrir par rapport à la prédication de l'Évangile, au message que l'Évangile nous donne, qu'on est séparé de Dieu, mais que Dieu veut nous réconcilier avec lui. Mais la seule façon, c'est en passant par son Fils. Et c'est pour ça qu'il faut croire vraiment, mais du cœur. En conclusion, je vous dirais que à la lumière de tout ça, je pense qu'on est capable de comprendre qu'effectivement, la résurrection, ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Et Jésus a parlé de la résurrection. Oui, sa résurrection à lui, elle était annoncée. Mais ce matin, on a entendu aussi à quel point nous aussi, un jour, on va ressusciter. Et Jésus a parlé de la résurrection des justes et des injustes. Et pour être juste, c'est en mettant sa foi en Jésus-Christ. Et ça ne changera rien qu'on fasse n'importe quoi. Les corps vont ressusciter. Vous savez, en Chine ou au Japon, je ne me souviens pas, il y a plusieurs années de ça, dans le temps de la guerre, il y a des chrétiens qui avaient été mis à mort. Et ces gens-là savaient que les chrétiens croyaient à la résurrection. Ils ont fait une fosse commune dans laquelle ils ont mis tous les corps, puis ailleurs toutes les têtes, en se disant « Dieu va être mal pris ». À la résurrection, Dieu ne sera pas mal pris. Il va nous donner des corps, mais des corps qui n'ont plus d'infirmité et des corps glorifiés afin qu'on soit à la ressemblance vraiment de Jésus. Donc, moi, la joie que j'ai ce matin en pensant un peu à Pâques, parce que c'est une tradition à quelque part, ça a été souligné la Pâques juive, la Pâques orthodoxe, la Pâques chrétienne, mais la parole de Dieu nous montre que Jésus est ressuscité. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on pense à Jésus, on pense à un Jésus qu'on peut célébrer parce qu'il est vivant. Alors que d'autres vont aller sur des pierres tombales pour pleurer la mort de des grands hommes. Il y en a eu des grands hommes qui ont un épitaphe à quelque part ou qu'on sait qu'ils sont là puis on pleure sur leur mort. Mais nous, on a la joie de pouvoir célébrer la résurrection de Jésus. C'est pas merveilleux? Mais moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est une belle journée parce que c'est peut-être le temps pour quelques-uns d'entre vous d'arrêter de douter et de croire. Même les disciples ont douté au début, mais ils ont cru. Ça a transformé leur vie. Mais ma prière, c'est que Dieu, par son esprit, puisse faire la même chose en vous, qui peut-être doutez ce matin, que vous puissiez mettre votre confiance en la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Et pour vous qui le connaissez, pour vous qui avez mis votre confiance en lui, eh bien qu'on puisse l'honorer d'une manière qui va vraiment être à sa gloire dans ce qu'on va faire, dans les choix qu'on va prendre, les décisions qu'on va prendre, afin que tout ça puisse être vraiment à son honneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, oui Seigneur, parler de la résurrection, ça nous rappelle à quel point c'était important pour toi. Et on est triste, Seigneur, de penser qu'un peu partout sur la terre, cette doctrine si importante a été mise de côté. Pour des traditions religieuses, pour des actes méritoires ou autres. Mais Seigneur, ce matin, nous qui sommes ici, on veut te rendre grâce de ce que tu n'as pas laissé ton fils dans le sépulcre. Tu ne l'as pas laissé au tombeau. Et tu as démontré ta pleine satisfaction de son œuvre en le ressuscitant des morts. Et Seigneur, comme un jour on a confessé qu'on s'était associé avec toi dans la mort du Seigneur Jésus, mais on est heureux d'être associé avec lui dans sa résurrection aussi et de marcher en nouveauté de vie. Donc, que ton esprit puisse travailler dans nos cœurs selon nos besoins respectifs, Seigneur, et que ça puisse être quelque chose qui réchauffe nos cœurs de savoir cette espérance que nous avons en toi et de t'appartenir pour l'éternité. Donc, c'est par nous avec ta bénédiction et que nous puissions avoir une journée, Seigneur, qui puisse vraiment être agréable à tes yeux. Dans le beau nom de ton Fils, on t'en prie. Amen.